2 Chroniques 34, verset 1. Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 31 ans à Jérusalem et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et la 8e année de son règne, lorsqu'il était encore un jeune garçon, il commença de rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença de purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux et des achères et des images taillées et des images de fonte. Et on démolit devant lui les autels de Baal. Et il abattit les colonnes consacrées au soleil qui étaient en haut au-dessus d'eux. Il brisa les achères et les images taillées et les images de fonte. Il les broya et en répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les os des sacrificateurs sur leurs autels. Et purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé et d'Éphraïm et de Siméon, et jusqu'à Nephtali, dans leurs ruines, tout à l'entour, il démolit les autels et mit en pièces jusqu'à les réduire en poussière, les achères et les images taillées, et abattit toutes les colonnes consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Et il s'en retourna à Jérusalem. Jusqu'ici, nous lisons au début la parole de Dieu. Josias nous montre une intervention de Dieu en grâce, en souveraine grâce, dans la vie du peuple de Juda. On est dans un temps où le royaume du Nord, Israël, était déjà mis en prison par l'Assyrien. Alors, il ne reste que ces deux tribus en Sud, Juda. Et le temps dans lequel Josias a vécu était vraiment très, très ténébreux. On peut comparer ce temps à notre temps, en fait. Si on voit la famille dans laquelle Josias est né et grandi, son père Amon, chapitre 33, verset 21, était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner. Verset 22, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Alors, 2 ans de règne seulement de Amon, mais un mauvais règne de lui. Le père de Amon, Manassé, chapitre 33, verset 1, âgé de 12 ans lorsqu'il commença à régner, 55 ans à Jérusalem, et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et même, il est dit, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Ça nous montre un caractère du règne mauvais. Extraordinaire, mauvais. Même comme les nations, pas seulement comme Israël, mais comme les nations. Et c'était le peuple de Dieu, la personne responsable dans le peuple de Dieu qui a vécu une vie comme cela. Même si nous voyons plus loin dans le verset 12, et quand il fut, non, même avant verset 10, 33 verset 10, et l'Éternel parla à Manassé et son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Et l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée, etc. Verset 12, « Et quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères, et le pria, etc. » Une repentance. C'est extraordinaire parce que le livre de Deux Rois, 22, sauf erreur, ne même pas, mentionne pas, même pas cette repentance de Manassé. Ça nous montre que le caractère de son règne était vraiment absolument mauvais. Et seulement, probablement tout à la fin, c'est lui qui se repentit. Une personne, Manassé, qui est en fait le résultat de la grâce de Dieu. J'ai lu dans le verset 1, 33, il était âgé de 12 ans quand il commença à régner. Ça nous montre, son père, c'était Ézéchias, vous dites. Ézéchias. Et nous savons que Dieu a donné 15 ans de plus pour cet homme. Ça veut dire, Manassé était né dans le temps de plus. Le temps de grâce extraordinaire que Dieu a donné à Ézéchias. Ça veut dire qu'il est vraiment un monument de la grâce de Dieu envers Ézéchias et en lui-même. Il est pour ainsi dire le caractère de grâce. Mais le caractère de son règne était tout à fait le contraire. Comment est-ce qu'on peut être né d'une personne très, très... une personne de piété, vraiment attachée à Dieu, dans une famille des croyants, et prendre un chemin comme Manassé? Et voilà, c'est le caractère que nous connaissons aujourd'hui. Des enfants qui sont nés dans une famille des croyants, dans des foyers des croyants, mais qui prennent un pas, un chemin tout à fait contraire à ce qu'ils ont vu parmi leurs parents et ce qu'ils ont entendu dans leur famille. Mais il n'y a pas des cas sans espoir. Et c'est Manassé. Dieu a donné à cet homme 50, nous avons lu, 55 ans de règne. C'est plus que tout autre roi a reçu comme temps de règne. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a donné à ce roi autant de temps? Parce que Dieu a su qu'il va se repentir. Et Dieu l'a donné le temps. Et pour nous, des parents, ou peut-être des amis de ceux qui ont des enfants, des neveux, des nièces, des personnes proches qui vont encore dans le péché, qui vont encore dans un chemin très, très mauvais. Il ne faut jamais penser qu'il n'y a pas d'espoir. On peut continuer avec les prières pour ceux qui vivent encore dans un chemin comme Manassé. Ne pensons jamais que Dieu n'a pas autant de moyens de changer une vie. Certainement, il faut le vouloir, comme Manassé a changé dans un certain temps. Pour vous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va dans un chemin, peut-être pas mauvais comme cela, mais un chemin d'après la propre volonté. Pour ceux qui vont sur un chemin comme cela, on ne peut jamais dire « j'ai encore 55 ans pour changer ». Ça, on voit avec Amon, 2 ans seulement, 2 ans. Si je prends volontairement un chemin en contradiction avec la parole, le temps peut être à la fin très très vite, 2 ans. Dieu a vu et a su que pour Amon, il n'y a pas de changement dans sa vie. Alors après 2 ans, c'était fini. Mais dans une famille comme cela, et il faut ajouter que dans 2 Rois, on voit que Dieu mentionne Manassé comme raison pour le jugement de Dieu après. À cause de Manassé, Dieu ne peut pas épargner le peuple de ce jugement. Il était nécessaire, ce jugement, que Nebuchadnezzar va venir à cause de Manassé. Même s'il a changé, il était la raison pour le jugement définitif. Et dans des situations comme cela, Josias était né et grandi. Et ça nous montre que la grâce de Dieu de prendre un garçon comme lui et fait un tout autre chemin avec lui, une toute autre vie, que la grâce est vraiment souveraine. Ce n'est pas parce que Josias était si bien, c'est parce que Dieu a intervenu dans sa vie que Josias a pris un chemin comme cela. Certainement, il a voulu, il a dû vouloir suivre les pas de Dieu. Mais on voit, si on compare un peu la vie d'Ézéchias et la vie de Josias, Dieu a utilisé les souffrances, les douleurs par l'Assyrien dans la vie d'Ézéchias pour le poser sur un chemin bien. Et dans la vie de Josias, on ne voit pas cela. C'est vraiment... Je dis, si on le compare un peu avec le temps de l'Église, comme le temps de Philadelphien, le temps du 19e siècle, ce n'est pas comme avec la Réformation où Dieu a utilisé la pressure de dehors pour changer des choses. Mais dans le 19e siècle, c'est juste la grâce de Dieu qui a intervenu pour produire un esprit de piété et de l'obéissance et de révélation des vérités de la parole. C'est ici avec Josias. Même si on peut dire que le fait qu'un homme, qu'un garçon de 8 ans a régné comme un roi était déjà un jugement de Dieu. On lit dans le livre de Prédicateur, dans le chapitre 10, verset 16, Ecclésiaste, Prédicateur ou Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16, « Malheur à toi, terre, qui a pour roi un jeune garçon. » Malheur à toi, terre, qui a pour roi un jeune garçon. C'est pas normal qu'un garçon avec 8 ans règne sur le peuple de Dieu. Dieu montre par la situation qu'il n'y a pas d'autres garçons, d'autres fils de Amon qui était capable de régner parce qu'il n'y avait que ce jeune garçon, et montre que c'est un peuple qui est sous la discipline de Dieu. Et si on accepte cette discipline de Dieu, si on s'humilie sous cette discipline de Dieu, Dieu peut produire, comme ici dans le temps de Josias, des résultats de bénédiction pour le peuple. Je crois, il n'est pas de question que le peuple de Dieu aujourd'hui vit sous la main de discipline de Dieu. On voit l'état dans la chrétienté et nous sommes partie de la chrétienté. Nous voyons l'état du peuple de Dieu, nous voyons l'état de nos cœurs et de ceux qui confessent d'être assemblés en nom du Seigneur Jésus. On voit que l'état est très très bas. Et si nous nous humilions sous cette main de Dieu, de notre Père, de discipline, Dieu peut produire la bénédiction. Mais si on regarde de dehors pour dire « Non, moi je suis différent, nous sommes différents », Dieu ne peut pas bénir son peuple comme il a fait avec Josias. En fait, si on regarde le livre de 2 Chroniques, un peu la structure de ce livre, on peut dire que prophétiquement, l'enseignement de ce livre est fini plus ou moins, arrête avec le règne de Ézéchias. On lit à la fin du chapitre 32 sur Ézéchias, dans le verset 31. Non, c'est avant même. Je crois. Dans le verset 30. Oui, 30 à la fin. Et Ézéchias prospéra dans tout ce qu'il fit. Ézéchias prospéra dans tout ce qu'il fit. Ézéchias est en fait une image de notre Seigneur comme Messie. Avant Ézéchias, on trouve dans chapitre 28 à Achas. Achas était âgé, chapitre 28, Achas était âgé de 20 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 16 ans à Jérusalem et il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. C'est tout à fait le contraire de Josias. Et on voit plus tard dans sa règne qu'il a même pris un autel des ennemis de Dieu pour le prendre et le mis à la place de l'autel d'Airain dans le temple. Alors Achas est une image de ce faux roi d'Antichrist. Et après lui, Dieu donne Ézéchias comme une image du Messie. Comme le Seigneur va venir ici sur la terre pour régner après que ce faux roi ait régné sur le peuple d'Israël. Le Seigneur va venir et sous sa main, vraiment, ça sera une prospérité parfaite. Comme il est dit avec Ézéchias, il prospéra dans tout ce qu'il fit. C'est parfaitement avec le Seigneur. Et avec cela, pour ainsi dire, on a la fin de l'histoire ici sur la terre. Pourquoi alors encore Manassé, Amon et Josias? Parce que Manassé, dans la prophétie, nous montre l'histoire d'Israël. N'est-ce pas? Israël était formé par Dieu dans des circonstances bien. On le voit dans les livres de l'Exode, que Dieu a formé son peuple et il a donné à son peuple cette place quand il a pris son peuple en dehors de d'Égypte. Il a accompagné son peuple dans le désert pour les positionner dans le pays, dans des circonstances agréables en fait. C'est lui qui a battu les nations devant le peuple d'Israël. Une place parfaite pour ainsi dire. Mais comment est-ce que, comme Manassé, le peuple d'Israël a réagi? Ils ont pris des idoles et ils étaient désobéissants et ils n'ont pas suivi les pas de Dieu. Et quel est le résultat? Le résultat était que Dieu les a emprisonnés, où? En Assyrie et en Babel. C'est exactement ce que nous avons lu dans chapitre 33 avec Manassé. 33, verset 11. Et l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, et ils prirent Manassé dans des ceps, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et l'amenèrent à Babylone. Alors, les deux ennemis que Dieu a utilisés pour le royaume de Nord, l'Assyrien, et pour le royaume du Sud, Babel, sont mentionnés ici. Et ça nous montre vraiment que Manassé est un modèle de l'histoire du peuple d'Israël en miniature. Comme le peuple d'Israël, Manassé a pris les idoles, il a suivi les idoles, ils ont adoré les idoles. Dieu a pris son peuple emprisonné à l'Assyrien, en Assyrie et en Babel, et après un certain temps, qui est encore futur, ils vont se repentir. Et comme Manassé, Dieu va donner de nouveau la grâce à son peuple. C'est Manassé. Amon, en contraire, en contradiction, c'est le peuple incrédule qui va être là aussi dans le temps à l'avenir. Et ce n'est pas seulement un résidu qui va croire, qui va repentir, mais il y a aussi, même la plupart du peuple d'Israël qui ne vont pas se repentir, qui vont rester dans l'incrédulité. Et alors, quel est le caractère? Quelles sont des conditions, principes de la repentance? Et le premier principe qu'on va voir avec le peuple d'Israël pour se repentir, pour la repentance, c'est qu'ils vont revenir à la parole de Dieu. Si on regarde par exemple Jérémie 31, c'est la Nouvelle Alliance, on voit que le grand principe ou le grand caractère sera avec eux qu'ils vont accepter la loi. On le voit dans Jérémie 31, sauf erreur. Oui, dans le verset 31, « Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, je t'établirai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une nouvelle alliance. » Verset 33, « Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. » Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, etc. Ça veut dire le grand caractère de la nouvelle alliance et avec cela, avec le peuple d'Israël dans le futur, c'est la parole de Dieu, c'est la loi. Et c'est exactement le grand caractère du règne de Josias, que lui a trouvé en fait la parole de Dieu, on le voit plus tard dans le chapitre 34, on n'a pas lu cela, et qu'il était obéissant à cette parole. Ça, on voit dans 2 Rois 23, où il est mentionné qui est le grand signe de le temps de son règne. 2 Rois 23, verset 25, il est dit « Avant lui, avant Josias, il n'y eut pas de roi semblable à lui qui se fût retourné vers l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est pas levé de semblable à lui. » Ça veut dire que le grand caractère de sa vie était la loi. On lit presque les mêmes mots sur le règne d'Ézéchias. Si vous comparez chapitre 18 du roi, il est dit dans le verset 5, « Ézéchias a mis sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui, il n'y en eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, non plus que parmi ceux qui avaient été avant lui. » C'est presque le même mot, mais la raison est différente. Pour Ézéchias, c'était la confiance. La confiance dans ses souffrances, dans cette pressure de l'Assyrien. Il avait mis toute sa confiance sur Dieu, et pas sur le Syrien, sur l'Égypte, mais sur Dieu. Mais avec Josias, c'était, il est retourné vers la loi. Ça veut dire que la loi a pris encore une fois cette place dans son règne. Maintenant, comme j'ai dit déjà, ce n'était pas dès le début avec la loi. On lit seulement dans le verset 14, que 2 Chroniques 34, verset 14, « Et comme on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, Hilkia, le sacrificateur, trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. » C'est alors dans la 18e année de son règne seulement qu'on a trouvé cette loi. Mais à partir de ce temps, elle était obéissante à cette loi. La parole de Dieu a reçu la place central dans la vie de Josias. Il faut dire que ce réveil dans le temps de Josias était seulement partiel. Si on regarde le prophète Jérémie, qui a prophétisé dans le temps de Josias, et si on regarde Sophonie, le prophète, qui a prophétisé dans le temps de Josias, on voit que le peuple n'était pas obéissant, que le peuple a essayé de montrer une certaine piété, mais Dieu a dû dire « c'est faux, c'est juste extérieurement et pas intérieurement ». On ne peut pas imaginer, si on lit 2 Chroniques 34, 35, comme 2 Rois 22, 23, que c'était que Josias. Mais en fait, c'était une personne qui a changé. Et certainement, les autres ont suivi Josias, mais seulement extérieurement. Maintenant, un réveil commence toujours avec une personne ou peu de personnes. C'est dans le cœur d'une personne ou de peu de personnes que Dieu peut produire un réveil. Mais certainement, Dieu veut qu'un réveil inclue les autres. Mais souvent, l'expérience montre qu'il y a la foi de seulement peu de personnes et le reste extérieurement suit. Mais s'il n'y a pas vraiment un changement intérieur de nous tous, le moment où cette personne est mort, est décédé, le réveil arrête. Parce que seulement s'il y a un réveil dans les cœurs de nous tous, le Seigneur peut continuer avec cela. Maintenant, nous sommes loin d'un réveil aujourd'hui. Mais quand même, le Seigneur peut produire un réveil localement, si le Seigneur va regagner une place centrale dans ta vie, dans ma vie. Et c'est exactement ce que nous voyons avec Josias. Il régna, nous avons lu dans le chapitre 34, 31 ans à Jérusalem. Et maintenant, il est dit sur lui, Premièrement, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Deuxièmement, il marcha dans les voies de David, son père. Et troisièmement, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça nous montre sa vie pratique. Sa vie pratique, on peut dire, d'après le Nouveau Testament, c'était caractérisé par une justice pratique. Il a vécu avec une droiture. Ce n'était pas une vie où il a montré quelque chose qui n'était pas vrai dans son cœur. Il n'a pas joué un rôle devant les yeux des autres. Mais sa vie était vraiment droite. C'était clair. C'était juste. Comment est-ce que Dieu va juger ma vie, ta vie? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on peut voir que nous suivons pas après pas, quand nous avons chanté le chemin du Seigneur, est-ce que nous suivons le chemin que le Seigneur nous a laissé ici? Deuxièmement, elle est dit, elle a marché dans les voies de David. Voilà, c'était la mesure pour tous les rois. On a vu avec Achas ou Manassé, il n'était pas sur ces voies de David. Ce n'est pas dit, il est marché sur les voies d'Ézéchias, mais Dieu va toujours au début. Et David, nous voyons, nous savons, il est une image du Seigneur. Pour ainsi dire, Josias a marché sur les voies du Seigneur. C'est la mesure pour toi et moi. Ce n'est pas un frère qui peut être un modèle. Très bien. Et certainement, on peut l'appliquer. On peut demander à nous-mêmes, est-ce que nous sommes des modèles pour nos jeunes gens, pour nos enfants dans la famille, pour les jeunes gens dans les rassemblements, comme David était un modèle. David n'était pas parfait, il était loin d'être parfait. Il a commis autant de péchés, même graves, mais il est toujours retourné. Il a toujours repenti quand Dieu le péché qu'il a commis. Il a toujours, il s'est toujours humilié devant Dieu, s'il a compris, s'il a vu qu'il a accompli, qu'il a commis des péchés. Est-ce que nous sommes des modèles? Si nous tombons, est-ce que nous sommes ceux qui confesse cela? S'il y a une erreur dans mes convictions, dans ma vie, est-ce que nous sommes ceux qui confessent cela? Est-ce que nous sommes aussi ceux qui activement suivent le chemin du Seigneur pour que donner à nos enfants, à nos jeunes, vraiment un certain modèle? Est-ce qu'elle peut dire oui? Si je regarde ce frère, cette sœur, je vois quelque chose du Seigneur. J'aimerais imiter, pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Et vous, qui sont jeunes encore, vos enfants, est-ce que vous regardez vers ceux, vos parents par exemple, aussi les plus âgés, qui ont la foi? Ce n'est pas à vous d'imiter juste nos voies extérieures, hein, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Il faut imiter la foi, comme il est dit dans Hébreux 13, n'est-ce pas, sur les conducteurs. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Vous ne devez pas imiter nos chemins, nos pas extérieurement, mais la foi, est, j'ai aucun doute que vous pouvez voir quelques traités, quelques caractères de foi dans vos parents, dans la vie de vos parents, dans la vie de frères et sœurs plus âgés. Mais revenons sur ce verset. La mesure pour nous, le standard, c'est toujours le Seigneur, David, le vrai David. Quelle est ma vie en comparaison avec le Seigneur? Certainement, toujours faible, toujours avec des erreurs, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut voir dans ma vie quelque chose du vrai David? Avec Josias, c'était le cas. On peut même dire, avec lui, que Dieu nous mentionne, que montre que Josias était plus engagé pour Dieu que David, dans certaines façons. Est-ce qu'on peut voir quelque chose dans ma vie, dans ta vie, que la parole nous montre de notre Seigneur? Troisième caractère, et il ne s'en écarta ni droite, ni à droite, ni à gauche. Un jugement que nous trouvons seulement une fois dans la parole, seulement avec Josias. Il n'y a aucun autre roi qui a reçu ce jugement, ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Je ne sais pas ce que tu comprends par gauche et droite. Le chemin de la parole est au centre. Quelqu'un qui est à ma droite peut être sur le centre si je suis à gauche, trop à gauche. Et quelqu'un qui est à gauche de moi peut être en centre si je suis plus trop à droite. Alors, la mesure reste quoi? La parole. Et c'est effectivement ce que nous voyons par ce jugement. Parce que c'est pris, si vous voulez, de cette loi du roi Deutéronome 17, dans ce passage, que nous montre que Salomon n'était pas obéissant à ce que Dieu a dit pour tous les rois. Il est dit à partir du verset 14, quand tu seras entré dans le pays, Deutéronome 17, verset 14. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu posséderas, etc., j'établirai un roi sur... Et tu dis, j'établirai un roi sur moi. Alors, il donne plusieurs lois pour cet roi. Par exemple, il ne doit pas avoir une multitude de chevaux, verset 16. Verset 17, pas un grand nombre de femmes. Verset 17, à la fin, il ne s'amassera pas beaucoup d'argent et d'or. Les trois erreurs de Salomon, exactement. Et pourquoi est-ce que cette erreur de Salomon? Parce qu'il n'était pas obéissant à les versets suivants. Il arrivera, lorsqu'il sera le roi, assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, faite après le livre qui est devant les sacrificateurs, les Lévites. Et il l'aura auprès de lui et l'y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à garder toutes les paroles de cette loi et ses statuts pour les faire, en sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas du commandement ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume lui et ses fils au milieu d'Israël. Alors, premièrement, Dieu dit qu'il doit faire une copie de cette loi. Quel roi a fait une copie de cette loi? Aucun. On ne lit de aucun roi, certainement pas Salomon. S'il a vu, aurait écrit ce verset 16 et 17, comment est-ce qu'il a trompé exactement dans ces trois questions? Pourquoi dans ma vie, dans nos vies, il y a autant de désobéissance à la parole? Parce que la parole n'a pas, comme avec Josias, la place centrale dans ma vie. Je ne dis pas qu'il faut copier par main la parole de Dieu, ça dure longtemps, mais quand même, ça sera un bon exercice, n'est-ce pas? D'écrire fait beaucoup plus facile de retenir les pensées de la parole. Pourquoi pas faire? Mais lire, deuxièmement, elle est dit, il a dû lire, il a dû avoir cette loi auprès de lui. Est-ce que nous avons toujours la parole avec nous? Quel est le signe des jeunes gens 1 et Jean 2 que la parole habite en eux, auprès d'eux? Est-ce que la parole habite en moi? Est-ce que j'ai la parole avec moi? Pas seulement cette livre, mais le contenu. Est-ce que je vis vraiment avec la parole? Il lira tous les jours de sa vie. N'est-ce pas? C'est un exercice qui n'est pas nouveau pour nous, de lire chaque jour quelques portions de la parole. C'était déjà dit pour les rois à ce temps-là. Et n'est-ce pas? Nous sommes un royaume, nous sommes des rois, spirituellement, déjà aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un exercice pratique et utile pour nous de lire chaque jour, parce que nous oublions tous, n'est-ce pas? Si on a lu dans toute la Bible, on peut recommencer au début parce qu'on a perdu déjà autant des versets et des pensées de la parole. Il a dû lire chaque jour afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. La parole de Dieu et la crainte de Dieu, ce sont les deux caractères du roi Josias. Cette crainte de Dieu manque aujourd'hui, dans ma vie, dans nos vies. Est-ce que nous vivons vraiment devant Dieu? C'est la crainte de Dieu. De vivre devant le Seigneur. Ça veut dire toujours penser, quand je fais quelque chose, je suis devant le Seigneur. Le Seigneur me regarde en amour, comme nous avons dit, certainement. C'est l'amour du Seigneur qui nous regarde. Mais est-ce que je vis vraiment devant le Seigneur? Comment est-ce que je peux pécher si je vois la face de notre Seigneur, de mon Seigneur, de mon Sauveur, qui a dû souffrir autant des souffrances pour mes péchés? Comment est-ce que je peux pécher si je fais mentionner dans mes pensées, le Seigneur est là, le Seigneur me regarde, je vis devant le Seigneur? Pour cela, on lit la parole de Dieu. Et comme elle est dit, qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite, ni à gauche. Voilà, c'était exactement le jugement de Dieu sur la vie de Josias. Seulement, la dernière expression, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Dieu a voulu prolonger, mais il restait seulement 31 ans, parce qu'à la fin de sa vie, il s'est trompé. Dieu a donné une autre occasion d'être obéissant à la parole de Dieu, orale à ce moment-là, qui est venue du roi Nécho. Mais Josias n'a pas entendu, il n'a pas écouté. Oui, il a entendu, mais il n'a pas écouté. Il n'était pas obéissant, et à cause de cela, sa vie était arrêtée. Alors, quel est le caractère de ma vie, de ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce que nous avons vu ici qui était le signe de Josias? Et maintenant, je dis, les premiers 26 ans de sa vie, il n'a pas eu la parole de Dieu parce que c'était perdu. Et quand même, il n'a pas commencé d'être obéissant seulement à partir de 18e année de son règne. Pourquoi? Je vais répondre à cette question plus tard, juste verset 3. La 8e année de son règne, lorsqu'il était encore un jeune garçon, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Rechercher. Je prends cela comme sa repentance, sa conversion. Il a eu besoin du temps pour savoir qu'il faut rechercher Dieu. C'est pour chacun de nous, hein? C'est personne de nous qui cherche Dieu. Romains 3 le dit clairement, c'est personne qui cherche Dieu. C'est Dieu qui met dans nos cœurs ce recherche de chercher Dieu, de comprendre, il faut avoir paix avec Dieu. Et après un certain temps, à partir de son 8e année, ça veut dire quand il avait 16 ans, il a cherché Dieu, il a trouvé Dieu. Ça veut dire qu'il a commencé une relation avec Dieu. Et ça, c'est nécessaire pour vous jeunes aussi, pour vos enfants qui sont encore enfants. Sans une relation avec le Seigneur, sans repentir, sans confesser vos péchés, la vie est nulle pour Dieu. Il n'y a aucun sens vrai si nous ne commençons pas à chercher Dieu, à trouver Dieu, d'avoir une relation par la repentance, par la confession de nos péchés. Et Josias a eu besoin de ce changement de sa vie, comme Ézéchias et comme tout autre roi aussi. Nous avons tous besoin de cela. Ça ne suffit pas d'avoir des parents qui sont croyants. Il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et ça, nous trouvons avec Josias. Mais il n'est pas dit, il a recherché Dieu, mais il commença de rechercher Dieu. Ça veut dire, il a commencé et continué. Ça veut dire, il a continué avec une relation avec Dieu. Ce n'était pas juste un moment de sa vie, il se repentit et après il a vécu sa vie comme avant. Non, la repentance est le début d'une vie qui continue, j'espère bien, jusqu'à la fin de nos vies avec le Seigneur, avec Dieu. Et c'est le cas avec, plus ou moins le cas avec Josias. Et maintenant on se demande, pourquoi seulement une phrase, une expression sur cette décision? On dit souvent c'est la décision la plus importante dans nos vies. Pourquoi seulement une phrase, une expression, même une demi-verset pour ainsi dire? Et la réponse est parce que si quelqu'un accepte Jésus comme sauveur, c'est juste le début de notre vie. Certainement pour les incrédules, c'est la décision la plus importante. Mais pour ceux qui ont accepté Jésus, c'est juste le début. Et la deuxième chose, 12e année, et ça dure. Après la conversion, on ne continue pas directement à croître. Mais il faut un certain temps de comprendre que la vie n'est pas seulement la conversion, mais qu'il y a quelque chose à accomplir dans nos vies. Et la 12e année, il commença de purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, etc. Alors le temps est fini. Hein? Maintenant, c'est, nous sommes à la fin de cette réunion déjà. Mais seulement quelques mots sur cela. Où est-ce qu'il faut commencer à agir? Il ne faut jamais commencer quelque part pour évangéliser, pour servir le Seigneur. Au début, il faut commencer dans nos vies. Ça veut dire que chacun de nous a une responsabilité personnelle. Pour Josias, c'était le royaume dans lequel il était responsable, c'était Juda et Jérusalem. Pour nous, c'est ma vie. Ça veut dire Juda et Jérusalem, c'est pour moi ma vie. Et je crois, il est très clair pour nous tous que seulement par la conversion, notre vie n'est pas en ordre. Et il y a souvent, pas seulement pour ceux qui se repentent quand ils sont adultes, mais aussi dans nos vies, nous avons autant des choses où nous voyons qu'il y a des choses qui ne sont pas d'après la parole de Dieu. Et il faut commencer dans nos vies avec cela. Ça veut dire, Dieu ne me donne pas comme service, après ma conversion, d'être missionnaire n'importe où. Ça peut devenir mon service, mais pas au début. Au début, il faut regarder vers ma vie. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, à régler dans ma vie? Et ici, on le voit, il y avait pas mal des choses. Je ne vais pas entrer maintenant dans ces détails, juste de dire qu'il a pris la responsabilité dans sa vie. Et il a détruit toutes ses idoles, etc. Comment? Maintenant, je reviens sur la question que j'ai posée. Comment est-ce qu'il a su qu'il a dû détruire ses idoles, etc.? On le trouve dans la loi, Lévitique 26, Nombre, je crois, 33. On lit que Dieu va détruire ses idoles et qu'il dit à ce peuple de détruire les idoles. Mais il n'a pas eu la loi parce que c'était caché, c'était perdu. Alors comment est-ce que Josias a su quoi faire? Et la réponse est, pour parler, pour ainsi dire, dans le caractère du Nouveau Testament, 1 épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Jean dit aux enfants, petits-enfants, « Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. » Vous, les petits-enfants dans la foi, vous avez l'onction, c'est l'Esprit-Saint, de la part du Saint, c'est le Seigneur, et vous connaissez toutes choses. Ça veut dire, Dieu nous a donné la nouvelle vie avec la repentance, avec la conversion. Et Dieu nous a donné l'Esprit-Saint qui habite en nous. Et par l'Esprit-Saint, nous avons une compréhension des choses qui sont bien et des choses qui sont mauvaises. Certainement, comme j'ai dit, il n'est pas seulement bien, il est nécessaire de lire la parole de Dieu. Mais déjà, par la nouvelle vie et l'Esprit Saint, nous sommes capables de faire une distinction entre les choses qui sont bien et les choses qui sont mauvaises. Et c'est exactement ce que Josias a senti. Il a senti que les idoles, on ne peut pas servir ces idoles si on a une relation avec Dieu. Et je crois que c'est pratiquement très, très juste. Si j'ai Dieu devant moi, comment est-ce que je peux continuer avec des choses qui sont en contradiction avec sa grandeur, avec sa gloire, avec sa sainteté, avec son amour? C'est impossible. Certainement, la parole m'enseigne exactement dans beaucoup de détails comment les choses de ce monde sont mauvaises. Mais déjà, par l'Esprit Saint qui habite en nous, il est l'Esprit Saint. Et sa sainteté nous donne dans nos consciences une compréhension qu'il y a des choses qu'un croyant ne suit pas, ne fait pas. Certainement, nous avons besoin aussi de cette mesure de la parole, mais déjà la possession, pour ainsi dire, de l'Esprit Saint nous aide à faire cette distinction. Est-ce que c'est juste dans ma vie, dans ta vie, que vraiment, comme il est dit dans Romains 12, verset 9, je crois, au milieu, ayez en horreur le mal. Est-ce que nous avons encore vraiment une horreur du mal? Ou est-ce que nous apprécions quelquefois le mal que nous voyons avec des images, la littérature, des vidéos, des images que nous voyons? Est-ce que nous avons encore une horreur dans ce mal qui est produit dans le monde? La nouvelle vie qui est en nous, elle n'a jamais joie à ces choses. Et l'Esprit Saint qui vit en nous, jamais il apprécie ces choses qui sont contraires, en contradiction avec sa personne et sa nature. Et alors nous voyons déjà avec Josias qu'il a pas seulement compris dans ses pensées, mais son cœur était avec David, avec le vrai David, en contradiction, en séparation de tout mal, de toutes ces choses qui étaient contraires à Dieu. Est-ce que nous suivons un petit peu ces traces que nous avons vues avec Josias, qui a tracé, qui a suivi, pour ainsi dire, les traces, les pas de David? Est-ce que la parole de Dieu a vraiment une place centrale dans nos vies ?